Robert, je vous souhaite pour commencer un joyeux temps des fêtes.
Merci, merci. Vous aussi, j'espère que c'est bien commencé.
Bien sûr, ça commence toujours bien avec nos auditeurs à Boulevard en ondes, puis ça a bien commencé ce week-end. Monsieur Robert, est-ce que vous commencez à regretter de plus en plus de ne pas avoir imposé de clause grand-père au programme Expérience Québec lorsque vous l'avez remplacé par le programme de sélection des travailleurs qualifiés?
Non, parce qu'on le fait d'une certaine manière. On a continué le traitement de tous ceux, toutes celles qui étaient déjà inscrits dans le programme et dont les dossiers n'étaient pas traités. Pour moi, c'est ça une clause grand-père. Donc, ces gens-là ne sont pas impactés. Les dossiers vont être traités dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis pour toutes les autres personnes, ben on a un nouveau programme qui va leur permettre de soumettre leur candidature. Écoutez, ce qu'on dit, c'est que avec l'aide du gouvernement fédéral, dans les 18 prochains mois, on devrait être capable d'accueillir toutes les personnes qui ont une expérience de travail de 2 ans, qui maîtrisent la langue française, sont à l'extérieur de Montréal et Laval. Donc, c'est pas, je vous dirais, il n'y a rien de déraisonnable là-dedans. Il faut juste qu'Ottawa nous donne un coup de main en renouvelant les permis de ces personnes-là, qui sont des travailleurs étrangers temporaires. Et je vous dirais que c'est un peu ça la difficulté en ce moment. Là. Ottawa nous fait la vie dure avec les travailleurs en région. Mais j'ai espoir, là, je sens que sur les lignes, ça bouge dans nos discussions avec les cabinets. Je pense qu'il y aura peut-être de la magie de Noël ou de la magie de début de l'année, là, puis on va peut-être avoir une entente avec Ottawa, je le souhaite vraiment.
Oui, parce que là, je lisais ce week-end dans les journaux, et ici à Québec, ça touche 13 000 citoyens. De ces 13 000-là, il y en a qui doivent quitter là, dès le début janvier, là, notamment un couple de Tunisiens qui doit quitter le 5 janvier. Là. Donc, ça prend vraiment cette magie de Noël-là.
Ben écoutez, on le souhaite vraiment. J'ai eu une conversation avec le maire Bruno Marchand mercredi la semaine passée pour qu'on comprenne bien cette réalité-là. Il est en contact avec des gens directement sur le territoire. Je parle à des entreprises aussi. Mon cabinet parle à plusieurs de ces personnes-là qui sont inquiètes. Et l'enjeu, c'est beaucoup le fait que en septembre 2024, sans crier gare, le gouvernement canadien a dit « Bon, ben dans une entreprise, vous n'avez plus le droit d'avoir plus que 10% de travailleurs étrangers temporaires. » Donc, on va dire une manufacture de 100 personnes. C'est un maximum de 10 personnes qui peuvent être des TET, travailleurs étrangers temporaires. Si vous en avez 11, 12 ou 13, bien, aussitôt que leur permis vient à échéance, moi, gouvernement canadien, je ne les renouvelle plus. Ils doivent quitter. C'était brusque, c'était sec, puis il y a plusieurs entreprises qui ne peuvent pas fonctionner s'ils n'ont pas ces travailleurs étrangers temporaires-là. C'est depuis ce temps-là qu'on demande cette clause grand-père. Écoutez, je comprends qu'on ne pourra pas en venir 10 000, 15 000, 50 000 de plus. Là, on comprend ça. Là, à un moment donné, notre capacité d'accueil est limitée. Mais ceux qui sont déjà ici, qui ont déjà un logement, qui occupent déjà un emploi, gardons-les, au moins à statut temporaire. Puis nous, au Québec, on va s'occuper de leur donner la résidence permanente quand ils maîtrisent la langue française. Donc, c'est un travail d'équipe, là. Puis comme je vous dis, je sens que ça bouge à Ottawa. J'espère que vraiment, ils ne nous décevront pas. Mais chacun fait sa part, puis je peux vous dire que de notre côté, on fait notre part. On a annoncé d'ailleurs quelque chose vendredi dernier pour rassurer les gens puis donner de la prévisibilité pour l'année 2026.
Des gens qui se demandent comment ça se peut qu'on renvoie la balle du côté du fédéral, bien que ce soit quand même de juridiction fédérale en majorité, là, du côté du provincial, parce que ça se passe quand même dans la province. Il y a un air d'aller qui doit être installé aussi pour la suite des choses. Bruno Marchand semble en accord avec ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont critiques quand on en parle au 88-971-102, entre autres dans nos textos, en se disant bien, ça doit être un travail conjoint. Est-ce qu'on va perpétrer ce travail conjoint-là? Parce que le premier ministre, en fait, la semaine passée sur nos ondes, a dit que c'était vraiment de juridiction fédérale.
Bien, l'affaire, c'est que nous, au Québec, on donne des conditions pour inviter des travailleurs étrangers temporaires. Ce qu'on dit, d'ailleurs, c'est que ça prend ce qu'on appelle une évaluation d'impact sur le marché du travail. Une entreprise qui veut embaucher des travailleurs de l'étranger doit être capable de prouver qu'elle a d'abord essayé de recruter des Québécois. Je pense que c'est normal. Une fois qu'on donne cette autorisation-là, qu'on dit c'est vrai, il n'y a pas de Québécois qui peut occuper ce poste-là, l'entreprise peut embaucher à l'étranger. Mais le permis de travail, hein, ça vient avec notre fameuse carte d'assurance sociale, le NAS, ça vient d'Ottawa. C'est Ottawa qui donne un permis de travail ensuite. Et c'est Ottawa qui peut le retirer. Et c'est ça le problème. C'est qu'Ottawa dit, ben moi, je vais retirer les permis de travail de tous ceux qui dépassent 10% dans une entreprise. Je vais même pas renouveler ceux qui sont déjà là. Non seulement, je n'accepterai pas d'en faire venir de nouveau, mais je vais sortir des entreprises, je vais expulser les gens au fur et à mesure. Et c'est ça qui pose problème. Là. Le jeu que je dis, c'est pas Québec, là, c'est Ottawa qui fait ça. Donc, travail d'équipe dans le sens de même en éducation, pour les étudiants étrangers, nous sélectionnons, Ottawa donne les permis, pour les travailleurs étrangers temporaires qui relèvent du Québec, nous sélectionnons, Ottawa donne les permis, mais Ottawa peut les retirer aussi. Puis là, l'affaire, c'est qu'il agit comme s'il y avait urgence, il retire les permis vitesse grand V avant de nous donner le temps de donner la résidence permanente à ces personnes-là,
okay, alors
avant
eux,
de donner le temps d'évaluer.
Eux bougent trop vite et donc ça tombe sur votre tête, mais c'est vraiment le fédéral qui retire ça trop rapidement?
Oui, voilà, beaucoup trop rapidement, puis je demande pas mieux que de travailler en équipe. Puis chacun fait sa part, eux, ils renouvellent les permis temporaires. Le temps que nous faisions l'analyse des dossiers, qu'on s'assure que les gens ont effectivement un emploi occupé, qu'il n'y a pas de fraude, hein, parce qu'on ne voudrait pas aller là, vitesse grand V, faire n'importe quoi, puis se faire dire dans 6 mois, vous n'avez pas été diligent, vous avez laissé entrer des criminels, vous avez laissé entrer des gens qui ne travaillent pas ou qui ne parlent pas français. On doit quand même faire ce qu'on doit faire correctement. Il faut avoir un peu de temps. On demande quoi? 1 an? 18 mois pour régulariser la situation de dizaines de milliers de personnes. Je pense qu'on peut y arriver.
Est-ce qu'à la fin de votre analyse, il y a des gens quand même qui sont ici, là je pense aux 13 000 citoyens présentement ici dans la région de la Capitale-Nationale, qui ont un emploi à qui vous allez dire « le Québec n'est plus votre terre d'accueil »?
Le gouvernement québécois ne fait juste jamais ça. Nous, on ne renvoie personne, on n'expulse personne. Notre travail au Québec, c'est de sélectionner des gens en amont, que ce soit des étudiants étrangers ou des travailleurs étrangers temporaires. On n'expulse pas, c'est pas dans notre champ de compétences, c'est Ottawa qui pose ces gestes-là. Puis ce qu'on dit, c'est faites pas ça, renouvelez les permis des gens qui occupent des emplois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où ce sont des travailleurs étrangers temporaires qui gardent des commerces, des usines, des hôtels, des restaurants ouverts. Puis c'est une réalité très différente par rapport à ce qu'on a à Montréal et Laval. Montréal et Laval, le taux de chômage est à presque 7 %. En Beauce, je pense qu'il est autour de 3 %. À Montréal, on a beaucoup d'enjeux avec la langue française. À l'extérieur, c'est différent. Donc, nous, on veut pas traiter là de gaspiller à Gatineau là, tous les secteurs, toutes les usines, tous les commerces de la même manière. On sait que Montréal et Laval, c'est différent. Il y a des enjeux d'intégration, de francisation qui sont différents. Il faut être capable de faire de la politique adaptée à notre réalité québécoise. Et c'est là aussi, on demande à Ottawa de dire, ben, écoutez, oui, on peut être plus strict à Montréal-Laval pour des renouvellements de permis puis pour des arrivées de nouveaux arrivants. Mais il ne faut pas nous enlever des gens qui sont déjà ici, qui sont intégrés, qui parlent français en région ou dans la capitale nationale.
Comment est-ce que vous allez vouloir jouer dans tout cela en 2026? Je m'explique. Les 3 points criants, puis pas de façon politique, politicienne, d'en parler si possible, juste pour que sur le plancher des vaches, tout le monde comprenne bien ce que le provincial va pouvoir faire. 3 aspects criants importants sur lesquels vous allez devoir travailler en 2026.
On travaille avec les universités parce qu'il y a une grande capacité de recherche qui vient des étudiants étrangers. Il y a des gens qui sont au baccalauréat, mais beaucoup, beaucoup de gens sont en maîtrise et doctorat dans nos universités, que ce sont des étudiants étrangers. Moi, je souhaite qu'il y ait davantage de Québécois qui poursuivent vos expériences, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Et il faut aider nos universités à recruter. Ils ont un enjeu dernièrement. Ils n'étaient pas capables de remplir les quotas. Il y avait des droits, supposons, pour accueillir 5 000 étudiants étrangers dans telle université. Ils n'arrivaient pas à les attirer. Donc, avec ma collègue Martine Biron, à l'enseignement supérieur, on a travaillé là, pour renforcer notre secteur de la recherche. Ça, c'est un élément important. Ensuite, ben, on va faire nos rondes d'invitation pour le programme de sélection des travailleurs québécois. Ce que j'ai annoncé, c'est qu'il y en a à avoir à des fins de mois, là, janvier, février, mars, etc. On va inviter presque 29 000 personnes dans la prochaine année. Donc, je pense que ça va rassurer les gens sur notre capacité à faire fonctionner ce nouveau programme-là. Puis, je vous dirais, troisièmement, on va faire notre entente avec Ottawa. Je vous dirais que c'est les 3 enjeux là pour l'année 2026 en immigration.
Oui, parce que cette entente-là permettrait là, justement à ces citoyens-là de demeurer là, au Québec, là, je pense à la région de la Capitale-Nationale, vous avez nommé la Beauce. Parce que dans la réponse par écrit que j'ai de la part du ministre Joël Lightbound, il mentionne qu'il a donné 867,4 millions à la province et que la province a tout en main pour déterminer qui peut rester et qui doit partir. Mais là, ce que je comprends avec ce que vous m'expliquez en terminant, c'est que ça prend vraiment un travail d'équipe. Alors, il faut négocier rapidement.
Absolument. Puis c'est pas, le montant qu'Ottawa nous verse, il est bien utile, là, mais ça, c'est pour l'immigration permanente. Donc ça, c'est une entente qui date du début des années 90. qui aide Québec à accueillir, à intégrer, à franciser les immigrants permanents. Mais on a presque 560 000 immigrants avec des statuts temporaires sur le territoire québécois, dont à peu près 180 000 demandeurs d'asile. Et là-dessus, Ottawa ne nous aide pas. Donc, faire des chèques, là, c'est bien beau, mais au-delà de ça, là, l'urgence, là, c'est renouveler les permis de travail pour ces travailleurs-là qui nous aident en région.
Jean-François Roberge est ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de la Francisation. On vous remercie infiniment pour votre temps ce matin à Boulevard 102.1. Merci également pour votre disponibilité au cours de l'année 2025 et au plaisir de se reparler en 2026.
C'est bon. Joyeux Noël. Beau temps des fêtes à tous vos auditeurs.
Joyeuse fête. Merci beaucoup.
Merci. Joyeuse fête, M. Roberge. Merci beaucoup. C'était Jean-François Roberge de la CAQ, ministre de l'Immigration. Il faut vraiment venir simplifier ce qui se passe entre le fédéral et le provincial. Oui. Parce que, tu sais, d'un côté, moi, je parle au fédéral depuis la semaine dernière. On me disait, voyons, on a donné les sommes. Ils sont en mesure de le faire.
Ils devraient être capables de le faire.
Là, Jean-François Roberge, je dis, oui, je suis en mesure de le faire, puis je veux pas perdre les 13 000 qui sont dans la région de la capitale nationale. Mais pour ça, j'ai besoin d'un délai du Canada qui dit, c'est temporaire-là, garde-moi l'aide temporaire encore pour 18 mois, tant que je fasse l'analyse de tous les dossiers. Ça pourrait pas juste être à une place au lieu de deux. Là. Je suis tout mêlé.
Ça semble encore plus compliqué si c'est à une place au lieu de deux, parce que sinon, il faudrait rediviser les pouvoirs puis les tâches. Mais il y a clairement quelque chose qu'on a échappé. Probablement dans le fait que dans les 20 dernières années, 30 dernières années, côté immigration, ça a beaucoup changé le visage de comment est-ce qu'on accueille nos gens, qu'on accueille, dans quels besoins. Il y a eu des grandes vagues d'immigration auparavant, suite à des guerres, suite à des demandes de réfugiés, etc. C'était probablement pas la même façon de gérer le tout. Puis, tu sais, la grande pénurie de main-d'œuvre, le fait qu'on ne fasse pas autant d'enfants et tout ça, c'est important. Là. C'est un axe hyper important à prendre en charge. Mm-hmm. Puis, je pense plus que c'est juste de juridiction fédérale. Honnêtement, ça devrait être de juridiction municipale, provinciale et fédérale de façon déterminée.
En effet.
Qu'est-ce qui appartient à qui, encore plus clairement qu'actuellement.
En effet.
Parce qu'ils ont l'air perdus entre leurs propres tâches.
Oui. On va voir Frédéric Boisvert tout à l'heure vers 8 heures. C'est le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Il a fait un excellent texte sur faut que la capitale nationale redevienne une capitale nationale pour le gouvernement. Mais évidemment, on va lui parler d'immigration parce que les 13 000 citoyens ici dans la capitale nationale là, qui sont en attente et qui craignent de partir, bien, c'est tous des gens qui travaillent pour des entreprises de Québec. Ouais. Donc, évidemment, là, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de malléabilité de la part des deux paliers de gouvernement. Jean-François Roberge, je dis, on souhaite avoir un cadeau de Noël ou un cadeau de nouvelle année. Bien, vous avez jusqu'au 5 janvier pour bouger, les amis. Fait que prenez pas trop de vin dans le temps des fêtes et travaillez fort pour les gens qui ont besoin de vous, là.
En manchette, ce qui se passe ailleurs dans l'actualité. Donc, présentement, le taux d'occupation dans les urgences du Québec est à son maximum, en fait, au-dessus du maximum. Là, on parle d'un taux d'occupation qui est à 112 % au Québec présentement. Là. Donc, c'est
comme
vraiment
chaque année.
Mais là, on indique que c'est encore pire que chaque année. c'est ça qui est fou, là, parce que le temps des fêtes, c'est toujours des moments très occupés dans les urgences. Puis ça, c'est quand même problématique parce que c'est aussi le moment où il y a le moins de personnel disponible dans les urgences également. Ce qui s'est passé, c'est que la grippe est arrivée un peu plus hâtivement, ce qui a fait grimper totalement le taux d'occupation à 112 %. Puis on dit même que le pic de contamination, ça va être le 25 ou encore le 26 décembre. Donc, on n'est pas arrivé au pire. Là. Donc, vraiment, on commence peu à peu à perdre le contrôle du côté des urgences, notamment dans certaines régions. Chaudière-Appalaches, taux d'occupation dans les urgences à 148 %. 148 % du côté de la rive sud de Québec. À Québec, on s'en sort plutôt bien. Capitale nationale à 69 %. Tout ça alors que le groupe Collabor, qui s'assure de la denrée alimentaire dans les réseaux de la santé, rencontre plusieurs difficultés financières ces temps-ci. On va en parler plus en détail tout à l'heure, là, un dossier qui est sorti dans Radio-Canada ce matin. Juste rapidement, Québec qui a remis 280 millions dans son vieux réseau de télécommunications. Tout ça alors qu'il vient de s'en procurer un nouveau. Bon. Donc, on parle d'un contrat de 280 millions qui est un contrat de transition. On pourra développer ça plus en détail tout à l'heure, mais c'est un énorme montant qui n'aurait pas nécessairement dû avoir lieu parce que le ministère de la Cybersécurité avait dit qu'il n'allait pas remettre d'argent dans cet ancien réseau. Et je termine avec vendredi, des milliers de photos, vidéos et textes concernant Jeffrey Epstein, donc les fameuses Epstein Files, ont en partie été publiées par l'administration Trump. partout à travers le monde et surtout aux États-Unis, on attendait ça depuis maintenant plusieurs mois. C'était une promesse du côté de Trump. On a été très déçus parce que finalement, ça a été extrêmement censuré. On a choisi les documents qu'on allait publier, bien sûr. Et dans les documents, fait à noter intéressant, on retrouve beaucoup Bill Clinton au sein des photos. Là, ouais, à se demander si c'était son nez et pas celle d'Epstein.
Exactement. Là. Beaucoup, beaucoup de photos de l'ancien président démocrate des États-Unis. Un document de 146 pages complètement caviardé, Pascal. Ça laisse les républicains sur leur appétit. Et il y a de plus en plus de pression sur Donald Trump parce qu'on se demande, on est-tu en train de cacher des choses concernant Donald Trump? On le sait, il y avait des liens de proximité avec Jeffrey Epstein.
Ah oui, puis des photos de plein de gens connus qui sortent aussi, ouais, qui sont un peu épouvantables à voir sans avoir tout le contexte, parce qu'on peut spéculer plein de choses en attendant. Mm-hmm. Puis, je veux dire, ça laisse pas beaucoup de place à l'interprétation non plus. On peut quand même déjà faire des parallèles. Moi, je pense que tout devra sortir à un moment ou à un autre, puis il y a des gens qui vont peut-être trouver que ça va être entaché pas mal du côté du parti politique.
Il y a des hauts placés aux États-Unis qui vont prendre une bonne débarque lorsqu'on va commencer à creuser tout ça.
J'ai l'impression qu'en partie, Donald Trump va encore réussir à s'en sortir au niveau, oui, de son image. C'est comme s'il a le droit de tout faire, d'avoir été dans tous les scandales, sans que ça ait les dommages collatéraux que pour un autre politicien, ça aurait. Juste d'y penser, là, on transpose l'histoire ici, là. Au Canada ou au Québec, j'ai un de nos politiciens.
Il doit démissionner.
Branle-bas de combat, fracas. Puis, tu sais, pensez à Pablo Rodriguez, là.
Non, mais t'as raison. C'est rien
ça
ce qui se passe aux
États-Unis.
C'est rien ce qui s'est passé au Québec par rapport à ce qui se passe aux États-Unis présentement avec Jeffrey Epstein. Donc, imagine, il y aurait des démissions. Ça, t'as tellement raison de le mentionner. Il commence quand même à avoir un tournant du côté américain parce que hier, il y a une association de jeunes conservateurs qui tenait là, justement leur assemblée de fin d'année. Et eux ont beaucoup fait la promotion de J.D. Vance doit prendre plus de place à la Maison-Blanche. Donc déjà, on sent ce tournant-là malgré qu'on est seulement... on commence seulement l'an 2 de la présidence américaine. Mm-hmm. Déjà, les jeunes conservateurs commencent à se tourner vers le futur et commencent à délaisser de plus en plus les propositions de Donald Trump.
Mais en même temps, je veux dire, l'indéfendable est défendable jusqu'à une certaine limite, on va, oui, dire comme ça. Je veux dire, quand tu t'associes à une idéologie ou encore un parti, t'as forcément tendance à défendre des décisions de cette idéologie-là, de ce parti. Donc, par exemple, tu te situes sur la droite politique, tu dis « je suis quelqu'un de droite ». Bien, ton réflexe psychologique, ça va être d'aller défendre des décisions des dirigeants de droite et ça partout à travers le monde. Si tu es républicain depuis des dizaines d'années, ton réflexe, ça va être de défendre les décisions du président pour qui tu as voté et du président qui est républicain ou encore du candidat républicain. Mais il y a certaines personnes qui ont une limite quand même à ce qu'ils peuvent défendre. Puis là, quand ça fait plusieurs mois qu'ils défendent des choses qui vont à l'encontre de leurs valeurs, alors l'encontre de ce qu'ils pensent réellement, bien, éventuellement, le son de cloche arrive puis ils se rendent compte que le président, qui est adulte peut-être depuis plusieurs mois, bien, il n'est pas si hot que ça, finalement.
Oui, exactement. Et la droite étant des gens de loi et l'ordre, bien, c'est sûr que ça vient là, en contrepartie là, avec leur idéologie. Et d'ailleurs, là, c'est le sénateur là, Todd Blanche qui est sorti hier en entrevue pour sénateur républicain pour justement... s'élever au-dessus du noyau républicain et dire « là, ça n'a pas de sens ce qui se passe, il faut creuser la situation parce que notre image et notre président à l'heure actuelle est entaché, puis pas entaché par la faute des autres, est entaché par sa propre faute. » Donc, ça va être un dossier à suivre très intéressant au niveau politique. Après cette courte pause, à l'actualité ne prend pas congé, on va faire le tour de ce qui s'est passé dans le monde du sport cette fin de semaine. Pascal, est-ce que tu aurais pensé qu'après 15 matchs dans la NFL, je t'aurais nommé les Bears de Chicago, les Steelers de Pittsburgh comme au premier rang de leur division?
Jamais, mais je suis stupéfaite. Je te dis, je fais juste repenser à la foule des Bears de Chicago que j'ai vu, qui était déjà en folie complète là, lors d'un match.
Ouais.
Puis je me dis, ils doivent tout arracher.
C'est ça.
Tout arracher, là, je veux dire. Je me rappelle du père avec ses deux gars là, qui, ouais, les faisait lever, même quand il était fatigué, les deux petits. Là.
Ah,
quand
ouais,
il
avait
un toucher, il faut vous lever, les boys. C'est ça. Deux petits poulets avec les tucs jusqu'aux, ouais, yeux, voyaient à peu près rien. Fait que c'était ça l'ambiance. Là.
en plein ça. C'était toute une ambiance samedi soir dans la victoire des Bears en prolongation.
C'est des clubs, là. C'est pas des gros clubs là, dans les dernières années. C'est pas ceux qui se sont affichés le plus. Quelle remontée, puis on le disait il y a 3 ans, quand tu étais encore chroniqueur sportif ici à Boulevard 102.1, à quel point la NFL a changé de visage.
Mais oui.
Parce que là, il y a des forces un peu partout. Comme on a vu, les forces, bon, pas à 100%, mais se diviser ici là, dans le degré rouge et or. Là, auparavant, ben, c'était quand même les Carabins puis rouge et or qui menaient sans
plus. T'as raison.
Dans l'air, Laurent Duvernay-Tardif, on a vu quand même les forces commencer à se développer ailleurs. Mm-hmm. Bon, c'est sûr qu'ils sont encore les deux meilleurs, mais ça s'est passé pareil dans la NFL.
Exactement, dans la NFL, il y a une très grande parité. Et on va jaser d'hockey aussi parce que Sidney Crosby est devenu hier soir le joueur des Penguins de Pittsburgh avec le plus de points en carrière. Il a dépassé la légende Mario Lemieux. Puis il y a un jeune gardien de but qui a fait triper à foule à Montréal samedi soir. Donc on parle de tout ça après cette courte pause. À l'actualité ne prend pas congé sur Boulevard 101. L'actualité ne prend pas.